La mort d'Artus, chapitre 15. La reine sauvée. Le lendemain, dès l'aube, le palais s'emplit de barons et de seigneurs qui attendaient l'arrivée du chevalier appelant. Et beaucoup avaient grand-peur pour leur dame. Un peu après l'heure de prime, Mador de la Porte mit pied à terre dans la cour, escorté de toute sa parenté, et il monta dans la salle, armé de toutes armes, hormis son aume, sa lance et son écu. Il était haut et carré de corps, bien fait de ses membres et blanc comme laine. Il n'y avait guère de plus fort et preux chevalier que lui. « Mador, lui dit le roi quand il eut offert son gage, restez séant jusqu'à vêpres. Si, avant ce soir, la reine ne trouve pas quelqu'un pour la défendre, on fera de son corps ce que ma cour décidera. » Alors Mador s'assit dans la salle et autour de lui ses parents, et ils restèrent ainsi, sans mot dire, jusqu'à tierce. À 7 heures, un chevalier entra dans la ville, tout seul, sans écuyer. Il était couvert d'armes blanches, sauf l'écu qui était peint de 3 bandes de gueules. Il attacha son cheval à un orme dans la cour du palais, suspendit son écu à une branche, appuya sa lance au tronc, et entra dans la salle, aume en tête. Et à chaque pas qu'il faisait, chantait les mailles de son haubert. « Roi Artus, dit-il, j'ai entendu conter une grande merveille. C'est qu'aujourd'hui, un chevalier appelle la reine Guenièvre de trahison. Jamais on n'avait ouï parler d'une telle folie. Quand le monde entier la connaît pour la plus vaillante dame qui ait jamais existé. Je viens pour la défendre s'il en est besoin. Sire chevalier, dit Mador, je suis prêt à montrer qu'elle a déloyalement et traîtreusement oxy mon frère Gaëris. Et moi, je suis prêt à soutenir que jamais la reine n'a vu là déloyauté ni trahison. Mador, qui ne prit pas garde à cette parole, tendit son gage, et le chevalier aux blanches armes pareillement. Et quand le roi les eut pris, messire Gauvain lui dit tout bas, « Sire, je crois bien qu'à cette heure Mador a mauvaise querelle, car pour ma part, quelle qu'ait été la mort de Gaëris, je jurerais volontiers sur les reliques que la reine n'y a point vu de trahison ni de déloyauté. » Là-dessus, le palais se vida, et tous, grands et petits, s'enfuirent dans la plaine, hors de la ville, où se faisaient ordinairement les combats de justice. Messire Gauvain voulut porter la lance du blanc chevalier, et Hector son écu. Et quand les deux champions eurent prêté serment sur les seins, le roi fit approcher la reine et lui dit « Dame, voici un chevalier qui pour vous se met en aventure de mort. »« Sire, répliqua-t-elle, Dieu protégera le droit, car il est vrai que je n'ai vu déloyauté ni trahison. » Alors le roi Artus prit l'inconnu par la main et le mena à sa place en lui souhaitant l'aide de notre Seigneur. Puis il donna le signal et les deux champions volèrent l'un à l'autre droit comme sagettes. Ils se heurtèrent d'une telle force qu'ils se percèrent leurs écus et brisèrent leurs lances. Mais Mador fut arraché des arçons et tomba lourdement, non sans se meurtrir, pour ce qu'il était grand et pesant. Il se releva tôt, étonné d'avoir trouvé son ennemi si roide à la joute. Mais le chevalier aux blanches armes laissa là son destrier, comme celui qui craindrait d'être blâmé s'il attaquait à cheval un homme à pied. Tirant son épée et jetant son écu sur sa tête, il courut su à Mador, et lui donna d'abord un merveilleux coup sur le haume, après quoi il le mena si durement qu'en peu de temps, blessé 10 fois, l'autre n'attendait plus que la mort. « Mador, lui dit-il, tu vois bien que je te tuerai si cette bataille dure encore. Avoue-toi outré avant que pis ne t'advienne. Je ferai tant pour toi que Madame la Reine te pardonnera et que le roi te rendra ta terre. » À cette franchise et cette débonnaireté, Mador reconnut Lancelot. « Beau sire, prenez mon épée, dit-il en s'agenouillant. « Je me rends à merci et ne m'en tiens pas pour honni, car nul ne saurait durer contre le meilleur chevalier du monde. » Puis il cria au roi, « Sire, vous m'avez trompé en envoyant contre moi monseigneur Lancelot du Lac. » À ces mots, le roi courut accoler Lancelot tout armé. Mais Sire Gauvain vint lui délasser son home, et vous eussiez pouvoir tous les barons l'entourer et lui faire grande joie, ainsi qu'à la reine. Car tant vos prouesses qu'elle efface tout. Chapitre 16. Les amants dénoncés. Lorsque Lancelot et sa dame se furent retrouvés de la sorte, ils s'entraimèrent plus qu'ils n'avaient jamais fait. Même, ils en vinrent à se conduire si follement que plusieurs découvrirent leur secret, et parmi eux, messire Gauvain et ses frères. Un jour qu'ils en causaient tous les cinq dans l'embrasure d'une fenêtre, le roi Artus vint à passer près d'eux. « Voici, messire, taisez-vous » dit tout bas Gauvain. Mais le roi entendit à Gravin répondre qu'il ne se tairait point et demanda de quoi il s'agissait. « Ah, sire, ne vous souciez pas de cela, » répondit messire Gauvin. « Vous n'en tireriez nul profit, ni autrui. »« Par mon chef, je veux le savoir. » « Sire, ce n'est pas possible. Ce ne sont que fables et contes rapportés par Agravin. Je vous conseille, comme à monseigneur Lige, de laisser là ce propos. En nom de Dieu, je vous requiers, de par la foi que vous m'avez jurée, de me dire pourquoi vous étiez ainsi en conseil tous les cinq. C'est merveille que de vous voir à ce point curieux de nouvelles. Dussiez-vous me jeter hors du royaume, je ne vous dirai pas de quoi nous parlions. D'ailleurs, c'est le plus grand mensonge du monde. » Là-dessus, messire Gauvain quitta la chambre en compagnie de Gaberier et de Guéréès, et vainement le roi les rappela. Quand il vit qu'il ne revenait point, il emmena Agravin et Mordret dans une chambre et les conjura de lui apprendre ce qu'il avait si grand désir de savoir. Et comme il répondait encore qu'il ne le ferait point, il courut à une épée qui gisait là, sur un lit, la tira du fourreau et en menaça Agravin, criant qu'il le tuerait s'il ne parlait. Tant qu'enfin, le voyant échauffé à ce point, l'autre se décida. « Sire, je disais à mes frères que c'est déloyal à nous de souffrir si longuement la honte et le déshonneur que Lancelot vous fait, car il connaît charnellement votre femme. Nous en sommes certains et assurés. » À ces mots, le roi changea de couleur, mais il se contint et resta silencieux. « Sire, fit Mordret, nous vous avons caché cela tant que nous avons pu, mais il convient qu'enfin votre honte soit vengée. « Si vous m'aimez, répondit enfin le roi, aidez-moi à prendre Lancelot sur le fait, et alors, si je ne le punis comme un traître qu'il est, que jamais plus je ne porte couronne. » « C'est une dure entreprise que de faire mourir Lancelot, sire. Il est fort et hardi, et sa parenté puissante. Ils vous feront une rude guerre. » « Beau neveu, ne vous souciez point de cela. Mettez-vous au guet et surprenez-les ensemble. Je vous en requiers sur le serment que vous me fîtes en devenant compagnon de la table ronde. » Alors ils lui conseillèrent d'emmener le lendemain tous ses gens à la chasse. Lancelot en profiterait sans doute pour se rendre chez la reine. Et ainsi fut-il convenu. Chapitre 17. Les amants surpris. Tout le jour, dit le comte, le roi Artus fit morne visage, et quand messire Gauvin revint au palais, en compagnie de Gaheurier et de Guéréès, il devina d'abord, à la mine de son oncle, que ses frères avaient parlé. Lancelot, Hector et Lionel arrivèrent à l'heure du souper. Le roi leur tourna le dos. Les tables ôtées, il invita les chevaliers à se rendre avec lui à la chasse le lendemain. Mais, comme Lancelot lui proposait de l'accompagner, il lui dit qu'il se passerait bien de lui pour une fois. Et le soir, quand Lancelot fut rentré à son hôtel, il demanda à Lionel « Avez-vous vu quelle mauvaise chair le roi m'a faite? Je ne sais de quoi il est ainsi courroucé contre moi. » « Sire, ne doutez pas qu'il n'ait appris quelque chose de vous et de la reine, et mon cœur me dit qu'il adviendra grand mal de cela. » Or, le lendemain, sitôt que le roi fut parti pour la forêt, la reine envoya prévenir Lancelot qu'il se mit en devoir d'aller la trouver, non toutefois sans se munir de son épée. Et il eut soin de suivre un petit sentier couvert qui traversait le jardin. Mais Agravain et Mordret avaient placé des espions partout, de sorte qu'un garçon vint les avertir. Cependant, Lancelot entrait au palais secrètement et, passant de chambre en chambre, gagnait celle où la reine l'attendait. S'il eut l'idée d'en verrouiller la porte, c'est que Dieu ne voulait pas qu'il fût oxy. En effet, à peine était-il couché avec sa dame, les gens d'Agravain et de Mordret arrivèrent, et, trouvant lui clos, ils tentèrent de le briser. « Beaux doux amis !» s'écria la reine quand elle entendit le bruit qu'il faisait. « Nous sommes trahis. Bientôt le roi saura tout. C'est Agravain et Mordret qui ont tout fait. » « Pardieu ! Ils ont donc pourchassé leur mort. Avez-vous séant quelque armure ?»« Nenni, beaux doux amis !» « Las, notre malchance est si grande qu'il nous faudra mourir, moi et vous. Et pourtant, si vous pouviez vous échapper, il n'est pas né celui qui me ferait périr tant que vous seriez en vie. Partez, si vous pouvez. » Alors Lancelot, qui s'était vêtu en grande hâte, prit son épée et vint crier à la porte. « Mauvais couard, chevalier failli, je vais déclore lui. On verra qui osera passer le seuil. » Ce disant, il ouvre et attend, l'épée haute. Un chevalier du nom de Tanneguy entre hardiment. Mais dans le même temps, il reçoit un coup qui lui fend le haume et la tête comme une pomme, de sorte qu'il tombe mort dans la chambre. Voyant cela, ses compagnons reculent et dégagent le seuil. Et Lancelot, tirant vivement le corps à lui, referme la porte, puis il revêt les armes de Tanneguy. « Maintenant, dame, dit-il, je passerai s'il plaît à Dieu et si vous me donnez mon congé. » Elle le recommanda à Jésus-Christ notre Sauveur, et aussitôt il sortit, se rua sur les assaillants comme une tempête, abattit le premier qu'il frappa, coupa d'un entre-deux le poing au deuxième, fendit en se retournant les narines et le visage du troisième jusqu'aux oreilles, si bien que les autres s'enfuirent en désordre. Ainsi s'échappa-t-il du palais et regagna son hôtel, où Lionel et Hector l'attendaient en grande inquiétude. Et 2 heures plus tard, les mâles troussés sur les sommiers, il quittait la ville avec toute sa gente, qui ne comptait pas moins de 28 chevaliers preux et hardis. Mais le comte se tait maintenant de lui, voulant traiter de ce qui advint lorsqu'Agravain et Mordret, les deux frères de Monseigneur Gauvain, se furent emparés de la reine. Chapitre 18. Le jugement et la délivrance de la reine. Ils lui firent grand honte et l'humilièrent plus qu'ils n'eussent dû, car elle pleurait si fort que d'autres que ses félons en eussent eu pitié. Anon, le roi revint du bois, et au moment qu'il mettait pied à terre dans la cour, on lui apprit que la reine avait été surprise avec Lancelot. Ah, il en fut plus dolent qu'on ne saurait dire. Il demanda si Lancelot était captif, mais on lui répondit qu'il avait quitté la ville. « Beau sire, que comptez-vous faire ? » lui demanda le roi Carados Biébra. « Telle justice de la reine ! » que les dames qui en entendront parler en soient amendées. Et je vous commande, à vous, premièrement, parce que vous êtes roi, et aux autres barons qui sont séants, de par les serments que vous m'avez faits, de décider par droit jugement si elle n'a point mérité la mort. « Sire, La coutume n'est pas de faire un jugement après l'heure de nonne, et surtout d'une si haute femme que madame la reine. Mais demain matin, nous nous assemblerons. » Le soir, le roi ne but ni ne mangea, mais il ne voulut pas que sa femme fût amenée devant lui. Et à prime, lorsque ses barons furent réunis, il leur commanda à nouveau de juger la reine Guenièvre. Puis il se retira. Alors Agravain et Mordret contèrent les choses comme elles étaient arrivées, ajoutant qu'à leur avis, la reine avait bien mérité la mort pour avoir commis une si grande félonie que de honnir son seigneur, qui tant était prud'homme, avec un chevalier. À quoi les autres, hormis messire Gauvain, s'accordèrent, mais à regret. Et dès qu'il connut le jugement de la cour, le roi fit faire un grand bûcher dans la prairie de Camaalot pour brûler sa femme, car il lui était avis qu'une reine ouinte et sacrée devait mourir par le feu. « Sire, lui dit messire Gauvain, je vous rends tout ce que je tiens de vous, et de ma vie je ne vous servirai plus, si vous souffrez une telle chose. À Dieu ne plaise que je voie mourir madame de la sorte. » Mais le roi ne lui répondit même pas, car il avait l'esprit ailleurs. Et messire Gauvain fut s'enfermer dans son logis. Certes, si le monde entier eût péri sous ses yeux, il n'eût pas fait paraître plus de chagrin. Cependant, le roi mandait à ses neveux, Agravain, Guérès, Gahurier et Mordret, de prendre 40 chevaliers et d'aller garder le champ où était le bûcher. Guérès et Gahurier refusèrent d'abord, mais il les fit venir et les menaça tant qu'enfin ils consentirent. Et, pendant qu'ils allaient s'armer en leur logis, il fit comparaître la reine devant lui. Hélas, quand il la vit pleurant, vêtue de soie rouge, et si belle et avenante qu'on n'en eût pas trouvé la pareille au monde, il pensa pâmer tant son cœur se serra. Pourtant, il ordonna de la conduire au bûcher dont la flamme déjà se voyait du palais. Et sachez que dans toute la cité, les bourgeois et le menu peuple lamentaient à cette heure, si hautement qu'on n'eût pas entendu Dieu tonner. Il n'était homme ni femme qui ne pleurât, comme si c'eût été sa propre mère qu'on dût brûler. Or, au moment que la reine approchait du bûcher ardent, l'on vit soudain s'émietter les derniers rangs de la foule du côté de la forêt. Les gens couraient à toutes jambes, criant « Fuyez ! Fuyez ! Voici messire Lancelot qui vient au secours de madame !» Et en effet, une troupe de chevaliers arrivait à toute bride par la plaine, haume lacée, lance sur feutre, et Lancelot galopait en tête sur un haut destrier pis, plus allant que serre de lande. « Ah, traître cœur » cria-t-il à Agravain du plus loin qu'il put. « Voici votre mort !» Ce disant, il lui courut su, la lance allongée, et il appuya si rudement son cou que le fer traversa l'écu, le bras, le haubert, le corps, et parut outre l'échine, en sorte que le félon tomba mort. Dans le même temps, Hector heurtait Guérès. Il lui mit sa lance roide dans la poitrine, et l'autre n'eut que faire d'un médecin. Voyant ainsi périr ses frères, Gahurier, de courroux, abattit deux chevaliers. Mais Lionel, l'abordant par le travers, lui fit voler son aume du chef, et Lancelot qui passait, fracassant tout, échauffé de colère au point qu'il ne reconnaissait personne, lui fendit d'un seul coup la tête jusque aux dents. Bref, le lignage du roi Ban et du roi Bohort fit ce jour-là tant d'armes qu'au bout de peu d'instants, il ne demeura plus en vie de leurs ennemis que Mordret et 10 chevaliers, lesquels tournèrent bride. Et sitôt qu'il les vit fuir, Lancelot arrêta de frapper, comme la flamme cesse de brûler quand tout est consumé. Il fit monter la reine sur un pal froid, et avec ce qui restait des siens, il fut se jeter dans un fort château qu'il avait conquis au temps qu'il était encore chevalier nouveau, et qui avait nom la Joyeuse Garde, comme il est dit au livre qui devise de ses premières amours. Mais le conte revient maintenant au roi Artus. Chapitre 19. Deuil du roi et de Monseigneur Gauvain. Le roi se tenait dans la salle, assis auprès d'une fenêtre, la tête basse, lorsque Mordret entra tout essoufflé, suivi de quelques chevaliers, et s'écria « Sire, nos affaires vont mal. Sachez que, de tous ceux qui menèrent madame au bûcher, il ne reste que moi et ceci. Lancelot a ravi la reine et il s'est jeté dans la forêt de Camaalot après nous avoir déconfit. » Sur le champ, le roi cria à ceux qui étaient là de prendre leurs armes et se fit apporter les siennes. Mais le roi Carados Biebras, qui était vieux et sage, le conseilla. « Sire, Lancelot et sa parenté sont à présent trop loin pour que nous puissions les atteindre. Et ils sont si forts et hardis que peut-être ne les pourrions-nous vaincre, peu nombreux comme nous voilà. Envoyez plutôt des messagers dans tous les ports du royaume de l'Ogre, qui défendront aux mariniers de passer Lancelot outre la mer. Après quoi, vous marcherez contre lui avec de grandes forces et vous pourrez vous venger. » Le roi approuva et fit partir les messagers. Puis il se rendit au champ où s'était élevé le bûcher et fait la bataille. Or, d'abord qu'il y entra, il aperçut son neveu Agravain qui gisait, le corps troué, et à cette vue, il tomba de son cheval à terre, tout pâmé. « Ah, beau neveu ! » s'écria-t-il quand il eut retrouvé son haleine. « Comme il vous haïssait, celui qui de sa lance vous a ainsi féru !» Il commanda à ses gens d'emporter Agravain. Puis, tout pleurant, il se reprit à chercher les corps de ses amis charnels. Lorsqu'il découvrit celui de Guéréès, il frappa ses paumes l'une contre l'autre, criant qu'il avait assez vécu, puisqu'il voyait ainsi oxy les meilleurs de son lignage. Il ôta au mort son aume, et après l'avoir longtemps regardé, il lui baisa les yeux et la bouche, qui étaient glacés. Et comme il se relevait, il aperçut Gaheriez. De ses neveux, c'était celui-là qu'il avait toujours le mieux aimé, hormis Monseigneur Gauvain. Et il le vit gisant tout froid. Il courut à lui, le prit dans ses bras, le serra si étroitement qu'il l'eût tué s'il eût été encore en vie. Certes, il n'est douleur qu'on puisse éprouver d'autrui qu'à ce moment le roi ne sentit. Si bien qu'il pâma de nouveau, et demeura plus de temps évanoui qu'il n'en faut pour faire une demi-lieue à pied. « Ah, mort ! » dit-il enfin. « Si vous tardez encore à m'emporter, je vous tiendrai pour trop lente et vilaine. Ah, Gaheriez, beau neveu, c'est pour mon malheur que fut forgée la bonne épée qui vous a navré. Périsse celui qui vous en a féru, honnissant moi et mon lignage. » Ce disant, il accolait et baisait le corps sanglant. Et sachez qu'il n'était personne qui ne s'émerveillât de son deuil, bien que chacun eût grand chagrin, car tout le monde aimait Gaheriez de bon amour. Cependant, messire Gauvain était sorti de son logis. Les premiers qu'il rencontra dans la rue lui dirent en pleurant « Ah, messire Gauvain, si vous voulez connaître votre grande douleur, allez au champ là-bas. » Il crut qu'il plaignait la mort de la reine, et sans leur répondre, il continua de marcher, la tête basse. Mais chacun répétait autour de lui « Allez, messire Gauvain, allez voir votre grande douleur !» Et il était de plus en plus troublé, mais il n'en faisait pas semblant. Enfin, il entra dans le champ, et d'abord aperçut le roi, qui serrait sur sa poitrine le corps ensanglanté de Gaheriez, et qui lui cria « Gauvain, Gauvain, voyez votre deuil et le mien !» Ainsi reconnut-il son frère, et ses jambes fléchirent, le cœur lui manqua. Il tomba comme mort, tandis que les compagnons du roi s'assemblaient autour de lui, en déplorant le jour qui amenait de toutes parts de si grands dommages. Longtemps il demeura de la sorte. Enfin il se releva, courut à Gahurier, l'étreignit, et du baiser qu'il lui donna, sentit tant de douleur qu'il retomba, évanoui, sur le mort. Et quand il revint de Pamoison, il s'assit à côté du corps et dit « Ah, beau doux frère, comme il fallait qu'il vous hait, celui qui vous a si rudement navré. Maudit soit le bras qui vous frappa, honnissant moi et ma parenté. Bel ami, si doux et débonnaire, pilier de tout notre lignage, qui passiez en chevalerie tous vos pères, comment la fortune a-t-elle pu souffrir votre chute si laide et si vilaine? Certes, je ne souhaite pas tant de vivre que de vous venger du déloyal, du félon qui vous a fait une telle cruauté. » Messire Gauvin avait le cœur serré au point qu'il n'en put dire davantage. Mais quand, en levant les yeux, il reconnut Guéréès et Agravin qu'on apportait sur leurs écus, « Hélas, j'ai trop vécu, » s'écria-t-il encore, « puisqu'il me faut voir mes frères Oxy à si grand martyr. » Ce disant, il alla à eux, et en les embrassant, il pâma menu, et souvent, tellement qu'enfin les barons eurent grand-peur de le voir expirer sous leurs yeux. « Sire, » dirent-ils au roi Artus, « nous sommes d'avis qu'on l'emporte d'ici et qu'on le couche dans quelque chambre, loin de toutes gens, jusqu'à ce que ses frères soient enterrés, car il mourra de douleur sans faute s'il demeure auprès d'eux. » Ainsi fut fait, et de toute la nuit, messire Gauvin ne sonna mot. À peine avait-il encore son haleine. Cependant, on faisait des cercueils et l'on préparait des tombes, telles qu'il convient qu'en aient des fils de roi. Et au matin, Agravin, Guéréès et Gahurier furent ensevelis à Saint-Étienne, qui était l'église maîtresse de Camaralotte. Chapitre 20. Parlement. Après l'enterrement, le roi retourna au palais et s'assit dans la salle au milieu des barons. Tous les archevêques, les évêques et les hauts hommes étaient venus. Mais, à voir le roi Artus morne et pensif comme il était, chacun se tenait coi, si bien qu'on eût pu croire que le palais était vide. Quand un homme a perdu sa terre par force et trahison, dit enfin le roi, il peut souvent la recouvrer. Mais la perte d'un ami charnel est sans recours. Beau seigneur, le dommage qui m'est advenu ne peut être réparé en aucune manière, et je ne le dois pas à la justice de notre Seigneur, mais au grand orgueil de celui que j'avais élevé aussi haut que s'il eût été de mon sang. Vous qui êtes mes hommes et qui tenez vos terres de moi, conseillez-moi quelques moyens de venger ma honte. » Les barons se regardèrent, s'encourageant l'un l'autre à parler. Enfin, le roi Yon se leva. « Sire, notre honneur aussi veut que votre honte soit vengée. Mais qui regarderait au bien du royaume, je ne crois pas qu'il ferait la guerre au lignage du roi Ban de Benoïc et du roi Bor de Gannes, tant Lancelot et les siens sont puissants à cette heure par leurs terres et leurs hommes. C'est pourquoi je vous prie au nom de Dieu, sire roi, de ne point les attaquer si vous n'êtes tout à fait sûr de les vaincre, ce qui sera très difficile. » Il se fit des rumeurs. Beaucoup blâmaient le royon et disaient qu'il avait parlé par couardise. « Sire, lui dit Mordret, jamais nous n'entendîmes un prud'homme donner un aussi mauvais conseil que le vôtre. Si le roi m'en croit, il vous emmènera guerroyer contre Lancelot avec lui, que vous le veuillez ou non. » « Mordret, Mordret, répondit le royon, j'irai plus volontiers que vous n'irez vous-même. Mais sachez tous, seigneur, que si Lancelot et sa gente peuvent regagner leur pays, ils vous redouteront moins que vous ne croyez. » Mador de la Porte prit la parole. « Si vous voulez commencer la guerre, sire, vous n'aurez pas à chercher Lancelot bien loin, car j'ai appris qu'il s'est retiré à la Joyeuse Garde. La reine s'y trouve avec lui. Mais le château est si fort et si bien garni qu'il ne craint nul siège. Par ma foi, répondit le roi, vous avez raison de dire que le château est de grand orgueil, et je le connais bien. Mais, depuis que je porte couronne, jamais je n'ai entrepris une guerre sans en venir à bonne fin avec l'aide de Dieu et de mon lignage. Dans 15 jours, je partirai donc de Camelot, et je veux que vous tous, qui êtes ici, me juriez sur les saints de m'aider selon votre pouvoir, jusqu'à temps que notre honte soit vengée pour l'honneur du royaume. » Les reliques apportées, chacun fit serment, les pauvres comme les riches. Et le roi envoya des messagers par toute la Bretagne pour avertir ceux qui n'étaient pas là de se rendre à Camelot au jour désigné. De son côté, Lancelot manda aux chevaliers des royaumes de Gannes et de Benoïc de se tenir prêts dans leur château, afin qu'il y pût trouver asile s'il quittait la Grande-Bretagne et passait en Gaule. Puis il demanda aide à Galeodin, le fils de Galeo, et il lui vint tant de barons de Saurélois et des îles lointaines qu'eût-il été roi couronné, il n'eût point eu plus de chevalerie à la joyeuse garde. Et ainsi fut entreprise la guerre qui tourna si mal. Chapitre 21. Les nouveaux compagnons de la table ronde. La veille du jour choisi pour le départ, quand les barons furent assemblés à Camelot, le roi, sur le conseil de Monseigneur Gauvin, manda ses plus hauts hommes et leur dit de nommer 72 chevaliers pour remplacer les compagnons de la table ronde qui avaient été tués durant la quête du Graal. Et le jour de la délivrance de la reine, ou qui était parti en compagnie de Lancelot. Et nul des nouveaux élus n'osa s'asseoir au siège de Galahad. Mais sur celui de Lancelot prit place Élian d'Irlande, qui était l'un des chevaliers les plus renommés de son pays. À celui de Lionel, Bélinor, fils du roi de la terre foraine. Enfin, à celui d'Hector, un chevalier écossais, puissant d'armes et d'amis, fort de corps à merveille et extrait d'un haut lignage, mais cruel, félon et querelleur, nommé Vadahan le Noir. Ce jour-là même, les 72 compagnons nouveaux mangèrent avec le roi Artus à la table ronde, et le lendemain, après avoir oué la messe à Saint-Étienne, le roi et son armée partirent de Camelot et vinrent dresser leur pavillon, leurs tentes et leurs cabanes au bord de la rivière de l'Ombre, à quelques traits d'arc de la joyeuse garde. Chapitre 22. Siège de la joyeuse garde, message de Lancelot. Or, ceux du château avaient envoyé, dès la nuit précédente, partie de leurs gens se cacher dans un bois, sous la conduite de Lionel et d'Hector, afin de surprendre à revers l'armée du roi. Et le signal devait être une enseigne vermeille dressée sur la muraille. Mais les chevaliers embusqués l'attendirent vainement tout le jour, car Lancelot ne pouvait se résoudre à le donner. Quand il vit son château assiégé par l'homme du monde qu'il avait le plus aimé, qui lui avait fait le plus d'honneur et qui était à présent son mortel ennemi, il se sentit plus dolent qu'on ne saurait croire. Il appela une pucelle. « Demoiselle, allez au roi Artus et dites-lui que je m'étonne qu'il ait commencé une telle guerre contre moi. Si d'aucuns lui ont rapporté que je lui ai fait honte avec madame la reine, je suis prêt à prouver par mon corps et mes armes contre deux de ses meilleurs chevaliers que je ne suis pas coupable. Et si c'est à cause de la mort de ses neveux qu'il me guerroie, dites-lui que ceux-là qui furent toxi ont eux-mêmes causé leur trépas. Qu'il sache que je suis plus affligé de notre discorde qu'on ne le pourrait penser, et que certes j'aiderai les miens et combattrai les siens de tout mon pouvoir, mais que je le tiens lui-même pour mon seigneur et mon ami, encore qu'il me traite en ennemi mortel. » La demoiselle sortit du château et vint faire au roi son message. Mais, à peine eut-elle redit les paroles de Lancelot, Messire Gauvin s'écria « Sire, sire, vous seriez honni et votre lignage rabaissé si vous accordiez la paix à Lancelot après le grand dommage qu'il vous a causé. » Gauvain, quoi qu'il fasse, Lancelot n'aura jamais la paix de moi. Dites-lui, demoiselle, que je lui ferai la guerre tant que je vivrai. « Sire, reprit la Pucelle, les sages devins qu'on a connus de notre temps ont prédit que la parenté du roi Ban vaincrait tous ses ennemis. Mais puisque je ne reçois de vous que des paroles de guerre et de haine, il me faut revenir vers mon seigneur et lui apprendre ce que vous lui mandez. » Et la Pucelle retourna à la Joyeuse Garde, où elle conta à Lancelot ce qu'elle avait entendu. C'est pourquoi, le lendemain, au matin, l'enseigne vermeille flotta sur la maîtresse tour du château. Chapitre 23. Siège de la Joyeuse Garde. Première bataille. Sitôt qu'ils l'aperçurent, Lionel, Hector et leurs gens sortirent du bois aussi doucement qu'ils purent. Mais leurs chevaux toutefois firent quelque bruit, et plusieurs chevaliers du roi Artus de crier « Aux armes !» Se voyant ainsi découverts, ils brochèrent des éperons et commencèrent d'abattre les tentes et les pavillons et de tuer tout ce qu'ils rencontraient. Quand il entendit les cris et la huée, le roi demanda ses armes en toute hâte. Certes, il fit bien, car à peine avait-il monté à cheval, on vit choir son pavillon et le dragon qui en surmontait le mât mordit la poussière. Bientôt les tentes voisines furent également renversées. C'était Hector qui faisait ce dégât, espérant de surprendre le roi. Mais messire Gauvain lui vint à l'encontre par le travers. Il le heurta en plein aume et si rudement que l'autre dut embrasser le cou de son destrier pour ne pas tomber, puis s'incliner jusqu'à l'arçon quand messire Gauvain l'eut à nouveau frappé. Et peut-être eût-il péri si Lionel, qui aimait son cousin de grand amour, n'eût couru su au neveu du roi. Il lui asséna un coup très pesant. Son épée entra dans le haume de deux doigts, et messire Gauvain, tout étourdi, fut emporté par son cheval. Merveilleuse fut la bataille devant la tente du roi Artus. Vous eussiez pu voir ceux de l'ogre trébucher comme des moutons à l'abattoir. Pourtant, les gens de Lionel et d'Hector, peu nombreux et qui s'étaient trop hardiment jetés au milieu du camp, eussent été détruits si Lancelot ne fût sorti du château avec les siens. Bientôt il y eut tant d'hommes oxys de part et d'autre que le cœur le plus dur s'en fut ému de pitié. La terre était rouge de sang. Et Bélinor fut tué par Lionel, et Vadahan le Noir par Hector. Mais celui qui fit le plus d'armes ce jour-là, ce fut messire Gauvain. Il était si dolent de la mort de ses frères qu'il oxyde 30 chevaliers de sa main. Jusqu'au soir, son épée vola plus vite que le faucon sur sa proie, et devant lui, les rangs fondaient comme cire. Mais quand la nuit tomba, les gens de Lancelot rentrèrent au château et les hommes du roi Artus dans leur camp. Toutefois, une partie de ceux-ci durent faire le guet toute la nuit, car on craignait une sortie des chevaliers de la Joyeuse Garde. Chapitre 24. Siège de la Joyeuse Garde, deuxième bataille, courtoisie de Lancelot. Après le souper, Lancelot parla à ses compagnons. « Seigneur, ceux de l'ogre ne peuvent guère se réjouir, car bien qu'ils soient plus nombreux, ils n'ont, Dieu merci, rien gagné sur nous. Je souhaite que nous sortions demain encore et les attaquions. Mais, s'il vous est avis que mieux vaut rester dans le château, je ferai votre volonté. » Tous s'accordèrent à dire qu'ils préféraient le travail au repos. C'est pourquoi, avant même que le soleil eût pris vie, ils s'armèrent et descendirent dans la plaine en bon ordre, où les gens du roi avancèrent à leur rencontre. Hector, d'une part, et de l'autre messire Gauvain, conduisaient les deux premières échelles. Dès qu'ils s'entr'aperçurent, ils ne perdirent pas leur temps à se faire des menaces. Vous les eussiez vus mettre leurs écus peints et vernis devant la poitrine, brochaient rudement des éperons et laissaient court leurs grosses lances allongées. Et chacun d'eux appuya si bien son coup qu'ils n'eurent ni poitrail, ni sangle, ni harçon d'arrière assez fort pour ne pas rompre. Ils volèrent à terre où ils demeurèrent gisants, faisant la nuit du jour. Aussitôt les chevaliers du château d'accoururent. Sans doute eussent-ils enlevé Monseigneur Gauvin si ceux de l'ogre ne fussent venus à la rescousse. Et la mêlée dura dans les prés, au bord de la rivière de l'ombre, depuis l'aube jusqu'à la nuit. Sachez qu'au soir, il n'était plus une seule armure entière. Ce jour-là, le roi Artus porta les armes, et certes, aucun homme de son âge n'eût fait les prouesses qu'il accomplit, car il avait bien alors 75 ans. Vers l'heure de nonne, il rencontra Lancelot, et lui courut dessus aussitôt, l'épée haute. Lancelot ne voulut pas frapper. Il se contenta de se couvrir de son écu, de façon que le coup glissa et tomba sur l'échine de son cheval qui en fut oxy. Mais Hector, courroucé de voir son frère à terre, s'élança, et d'un premier coup de taille sur le haume, il étourdit le roi, puis d'un second le fit choir de son destrier. Après quoi il cria à Lancelot « Sire, coupez-lui la tête, voilà notre guerre finie !»« Que dites-vous, Hector ? Il m'a fait si souvent bien et honneur que je le protégerai de tout mon pouvoir. » Et comme son écuyer lui amenait un destrier, il le présenta au roi. « Sire, dit-il, vous m'avez souvent donné de beaux chevaux. Montez, s'il vous plaît, celui-ci, et gardez-vous mieux une autre fois. » Grâce à quoi le roi s'en fut sain et sauf, songeant en son cœur que Lancelot venait de passer en courtoisie tous les chevaliers présents et à venir. Néanmoins, la bataille recommença le lendemain, et ainsi dura le siège de la joyeuse garde pendant 2 mois et plus. Chapitre 25. Paix du roi et de la reine. Au bout de ce temps, l'apostole de Rome apprit que le roi Artus avait quitté sa femme et qu'il se proposait de la faire mourir, bien qu'il ne l'eût pas prise sur le fait. Aussi manda-t-il aux évêques et archevêques d'interdire et excommunier la terre de l'ogre jusqu'à temps que le roi eût repris la reine Guenièvre, et se fut résolu à la traiter comme un mari doit faire sa prude femme et épouse. Et quand il sut ce mandement, le roi fut d'autant plus dolent qu'il aimait encore la reine. C'est pourquoi il déclara devant tous ses barons qu'il ferait très volontiers sa paix avec elle pour obéir au pape. Et sur le champ, l'évêque de Rochester monta sur son palefroi et s'en fut parlementé. « Dame, dame, dit-il à la reine Guenièvre lorsqu'on l'eut conduit devant elle, il faut que vous retourniez à votre seigneur. Notre père le pape le commande. Le roi jurera devant sa cour de vous traiter comme sa prude femme. » Mais la reine lui demanda un délai pour répondre, et ayant appelé Lancelot, Hector et Lionel, elle leur répéta ce que l'évêque avait dit. « C'est alors que vous auriez pu voir Lancelot du Lac baisser la tête. « Dame, dit-il enfin, si je faisais ce que mon cœur désire, je vous supplierais de rester séant. Mais, pour ce que je préfère votre honneur à mon amour, je vous conseille de demander au roi que vous retournerez auprès de lui demain. Hélas, si vous n'acceptiez l'offre qu'il vous a faite, tout le monde parlerait de votre honte et de ma déloyauté. » Là-dessus, il se mit à pleurer, et sa dame de même, et aussi Hector et Lionel. Enfin, la reine s'essuya les yeux et vint dire à l'évêque qu'elle consentirait à retourner auprès du roi son seigneur, pourvu qu'il promît de laisser Lancelot gagner la Gaule sans lui faire tort d'un denier. Ce que le roi octroya de bonne grâce dès que l'évêque le lui eut demandé. « Pardieu, songeait-il, si Lancelot aimait la reine de fol amour, comme on a voulu me le faire accroire, il ne la laisserait point partir de la sorte, car je vois bien qu'il pourrait continuer la guerre pendant des mois encore, et que son château ne craint guère l'assaut. » Cette nuit-là, à la Joyeuse Garde, il n'y eut cœur si dur qu'il ne se fût ému à voir le merveilleux deuil que menèrent Lancelot du Lac et sa parenté. Et quand l'aube parut par la volonté de Dieu, Lancelot rendit à la reine, qu'il ne devait plus voir, comme ce conte le dira, l'anneau qu'elle lui avait donné lorsqu'il s'était pour la première fois accordé avec elle, et il la pria de le porter pour l'amour de lui. Après quoi, suivi des siens, tous aussi richement vêtus qu'ils avaient pu, et montés sur des chevaux couverts de soie, il reconduisit sa dame au roi. Chapitre 26. Dureté de Monseigneur Gauvin. Or, dit le comte, le roi Artus attendait hors de sa tente. En voyant son seigneur, Lancelot mit pied à terre, prit le palefroy de sa dame par le frein et dit « Sire, voici madame la reine. Ne l'eussé-je pas secourue, elle serait morte à cette heure. Et sachez que, si je l'aimais de fol amour, comme certains déloyaux vous l'ont fait entendre, je ne vous la rendrai point, car ce château est si fort qu'il ne redoute rien, et nous y avons des vivres pour 2 ans. » « De ce que vous faites, je vous sais gré, » répondit le roi tout pensif. Mais messire Gauvin avança d'un pas. « Lancelot, le roi vous sait gré de ce que vous avez fait pour lui, mais il vous requiert de vider la terre de l'ogre et de n'y plus rentrer de son vivant. » « Sire, est-ce là votre commandement ? Allez-vous-en dans votre terre, Lancelot. Quand vous avez Auxy à Gravin, Guéréès et Gaheurier, qui étaient mes charnels amis, vous m'avez fait payer vos services à trop haut prix. » « Et quand je serai outre-mer, sire, que me faudra-t-il attendre de vous ? Paix ou guerre ? » ?»« Assurez-vous, dit encore messire Gauvin, que le roi vous fera la guerre, et de tout son pouvoir, jusqu'à temps que mon frère Gaheurier soit vengé par votre mort. Et sachez que je gagerai le monde que vous perdrez sous peu la tête et la vie. » « Messire Gauvin, s'écria Hector, laissez-là les menaces. Lancelot du Lac ne vous craint guère. Si vous mettez les pieds dans la petite Bretagne, vous serez plus en danger que lui de perdre la tête. Prétendez-vous que vos frères ont été auxy déloyalement ? Je suis prêt à prouver que ce n'est pas la vérité. Qu'on nous mette en champ clos, corps à corps. Ainsi la guerre sera évitée, et beaucoup de chevaliers garderont la vie, qu'il aurait perdue. » Messire Gauvin tendit son gage aussitôt, et Hector d'offrir le sien. Mais le roi ne voulut point les recevoir, disant qu'on aurait bientôt l'occasion de voir quel était le plus preux lorsqu'il ferait la guerre à Lancelot. Ce qu'entendant, celui-ci s'écria « Certes, vous ne seriez pas en état de me la faire, cette guerre, si je vous avais nui autant que je vous ai aidé le jour que Galeot, sire des îles lointaines, devint votre homme lige. Et sachez que je ne dis pas cela par crainte que j'ai de vous, car, lorsque nous aurons mandé nos hommes et nos amis et garni nos forts châteaux, vous ne gagnerez contre nous ni peu ni prou. Quant à vous, messire Gauvin, vous devriez vous souvenir du jour où je vous délivrai de la tour douloureuse. Vous y étiez en grand péril de mort, prisonnier de Caradoc le Grand. » « Lancelot, repartit messire Gauvin, ce que vous fîtes jadis pour le roi et pour moi, vous nous l'avez vendu trop cher quand vous nous avez privés de ceux que nous aimions le plus. Et sachez qu'à cause de cela, il n'y aura pas de paix entre vous et moi, tant que je vivrai. » Alors Lancelot remonta sur son cheval, et, suivi des siens, il regagna son château. Dès qu'il y fut de retour, il appela un sien écuyer. « Beau doux ami, lui dit-il tristement, prends mon écu et va-t'en à Camaalot. Tu le suspendras dans l'église de Monseigneur Saint-Étienne le Martyr, afin que ceux qui le verront se souviennent de moi. Car c'est dans cette cité que j'ai reçu l'ordre de chevalerie, et je ne sais pourtant si j'y reviendrai jamais. » Toute la nuit, il mena grand deuil. Mais le lendemain, il partit avec sa maison, et ils chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent au rivage de la mer. Et quand la nef qui les emportait s'éloigna, vous l'eussiez vu changer de couleur et pousser de grands et merveilleux soupirs, tandis que l'eau du cœur lui coulait des yeux. « Ah » murmurait-il, « douce terre, délectable, débonnaire, joyeuse, plantureuse, bénie sois-tu de la bouche de Jésus-Christ, car mon âme et ma vie demeurent sur toi. » Poussée par le vent, la nef parvint heureusement dans la petite Bretagne. Et là, le jour de la Toussaint, Lionel fut couronné roi de Gannes et Hector, le même jour, roi de Benoïc, par le commandement de Lancelot, qui lui céda son héritage. Tous trois employèrent l'hiver à mettre en état les forts châteaux et à les garnir de vivres. Mais le comte maintenant retourne au roi Artus. Chapitre 27. Débarquement en Gaule. Chaque jour, messire Gauvin l'excitait contre Lancelot, si bien qu'il jura de détruire les forteresses de Benoïc et de Gannes, de manière qu'il n'en resta pierre sur pierre. Après Pâques, lorsque la froidure fut passée, il remit à Mordret le royaume de l'Ogre en Baillie. Ah, quelle folie il fit là! Sachez qu'il fit jurer à tous ses hommes d'obéir à Mordret comme à lui-même et de faire ce qu'il leur commanderait. Puis il chargea son neveu de lui envoyer l'or et l'argent dont il aurait besoin quand il serait en Gaule, et il lui remit les clés de son trésor à ce déloyal. Enfin, il lui confia sa femme épousée en lui recommandant de la garder comme son propre corps. Et certes, la reine Guenièvre fut bien dolente de cela. « Sire, dit-elle à son seigneur, quand elle le vit au point de monter dans sa nef, Dieu vous conduise et vous ramène, mais mon cœur me dit que nous ne nous reverrons plus. « Dame, répliqua le roi, il en sera ce qu'il plaira à notre seigneur. À vous chagriner, vous ne pourriez rien gagner. » Là-dessus, les maîtres mariniers firent tendre les voiles, que la brise frappa, et les nefs gaillardes gagnèrent la haute mer. Or, les vents furent si bons, si forts et si favorables, qu'elles atteignirent saines et sauves le rivage de la Gaule, où les chevaliers débarquèrent après avoir remercié Dieu. Puis, tandis que les valets mettaient à terre les harnais et les chevaux et dressaient les tentes, le roi tint conseil avec ses barons. « Sire, dit messire Gauvin, allons droit à la cité de Gannes, où le roi Hector et le roi Lionel demeurent avec Lancelot. « Pardieu, messire Gauvin, c'est folie !» fit le roi Carados Biébras. « Il nous faut auparavant détruire les forts châteaux de ce pays, que Lancelot a fait nouvellement réparer et qui sont très bien garnis. » Lancelot et ses hommes n'oseront pas sortir de leur forteresse, répondit messire Gauvin. Allons donc assiéger Gannes, puisque vous le voulez, dit le roi. Chapitre 28. Siège de Gannes. Lancelot défié par monseigneur Gauvin. Or, quand Lancelot et ses gens apprirent que le roi Artus approchait de la cité avec son armée, ils résolurent de l'attaquer avant qu'il se fût retranché. Et le lendemain, à l'heure de prime, les chevaliers s'assemblèrent devant le palais, dans la rue, où Lionel et Hector, les deux rois cousins, ordonnèrent les batailles. Cela fait, ceux de la ville sortirent, et l'armée du roi Artus fondit sur eux. Et ainsi la mêlée commença, dure et plénière. D'abord qu'il aperçut Lancelot, messire Gauvin s'assura en selle, et sachez qu'il appuyait de telle sorte sur ses étriers qu'il en pensa rompre les étrivières. Tous deux se heurtèrent avec le fracas du tonnerre de Dieu, et ils se portèrent l'un l'autre à terre. Mais messire Gauvin tomba si lourdement qu'il pensa se briser le bras. Quant à Lancelot, remonté sur son destrier, il plongea dans la mêlée, où il se mit à frapper à grands coups, si vivement que son épée battait comme une aile d'oiseau. Et il oxyde d'abord Elian d'Irlande, qui avait pris sa place à la table ronde. Lionel, Hector et lui semblaient être partout. Leurs épées brillaient comme le flambeau du ciel. Et à les voir, leurs gens se trouvaient aussi réconfortés que leurs ennemis confondus. Bref, ceux du dehors eussent beaucoup perdu ce jour-là. N'eût été le roi Artus qui faisait merveille à défendre sa gente et pourfendait ceux qui voulaient l'arrêter, comme s'ils n'eussent eu d'autre armure que leur faible peau. Et la nuit venue, les chevaliers de Gan, qui étaient moins nombreux, rompirent la mêlée et se retirèrent dans la cité. Toutefois, la grande et merveilleuse bataille recommença le lendemain, et durant 2 mois et plus, les deux armées combattirent 4 fois par semaine. Ainsi périrent maints prud'hommes et bons chevaliers. Mais, au bout de ce temps, le roi demanda une trêve de 8 jours, car il commençait à penser qu'il ne tirerait pas de ce siège grand honneur. « Gauvin, Gauvin, dit-il à son neveu, je crains que vous ne m'ayez fait entreprendre une chose où nous avons plus à perdre qu'à gagner, tant Lancelot et ses parents sont preux aux armes. » Messire Gauvin s'agenouilla et répondit seulement « Sire, pour Dieu, octroyez-moi un don. » Le roi le lui accorda volontiers et le fit lever en le prenant par la main. « Sire, vous m'avez donné que j'appellerai Lancelot de trahison. S'il ose soutenir qu'il n'a pas oxy mes frères par traîtrise, je prouverai contre son corps qu'il l'a fait, et si je le puis outrer, je n'en demanderai pas davantage, ni vous. Mais si je suis vaincu, vous lui ferez une bonne paix à toujours, ainsi qu'à son lignage. » À ces mots, le roi sentit ses larmes couler. Il eût donné de grand cœur ses meilleures cités pour que son neveu n'entreprît pas une telle bataille. Mais déjà, messire Gauvin avait mandé l'un de ses écuyers et le chargé du message pour Lancelot. « Sire, dit le valet en pleurant, je ne ferai point ce message, s'il plaît à Dieu. Désirez-vous si fort d'aller à la mort? Ayez pitié de vous-même. Vous n'êtes pas jeune, et vous avez fait assez d'armes durant votre vie. » Mais messire Gauvin lui répondit que de telles paroles ne servaient de rien, et le valet dut obéir à son seigneur. Au matin, il se présenta donc devant la ville, et il fut conduit à Lancelot, qui, l'ayant écouté, commença de mener grand deuil à son tour. « Ah, bel ami, dit-il au valet, je n'aurais pas voulu combattre monseigneur Gauvin, que je tiens pour très prud'homme, et qui m'a toujours fait si bonne compagnie depuis que je suis chevalier. Mais comment ne pas répondre quand il m'appelle de trahison, qui est la plus vile chose du monde? Plutôt que lui, je choisirais de rencontrer les 2 plus preux compagnons de la table ronde. Allez, et dites à monseigneur le roi que je voudrais lui parler. » Le valet fit diligence, et dès que le roi connut la réponse de Lancelot, il manda monseigneur Gauvin, le roi Carados et le roi Yon. Tous 4 s'avancèrent désarmés vers la porte de la cité. Lancelot s'empressa de sortir à leur rencontre avec les 2 cousins rois, et il mit pied à terre le premier et salua le roi Artus. Mais celui-ci ne lui rendit pas son salut, pensant que, s'il le faisait, son neveu s'en chagrinerait. Et en effet, messire Gauvin se hâta de parler pour lui. « Lancelot, messire le roi, mon oncle, est venu vous garantir que si vous m'outrez dans notre combat, il laissera le siège et regagnera le royaume de l'ogre. » « Messire Gauvin, dit Lancelot, si vous vouliez, nous renoncerions à cette bataille, quoique, après votre appel de trahison, je ne puisse la laisser sans honte. Et sachez bien que je ne parle point par couardise, car, armé et monté sur mon destrier, je saurais, s'il plaisait à Dieu, défendre mon corps contre le vôtre. Mais je souhaite si fort d'avoir la paix avec vous, que pour cela, je vous ferai volontiers hommage avec toute ma parenté. hormis seulement mon frère et mon cousin, qui sont rois. Je partirai demain de Gannes, nu-pied, en chemise, et je resterai en exil 10 ans au besoin, tout seul. Et je vous pardonnerai ma mort si elle advenait durant ce temps, pourvu seulement qu'à mon retour, j'eusse votre compagnie et celle de Monseigneur le roi, comme je les avais naguère. Et je vous jure par tous les saints que je n'ai pas oxy de sang-froid gaillerier votre frère, et que sa mort m'a fait grand deuil. » Lorsqu'ils entendirent Lancelot parler ainsi, tous ceux qui étaient là sentirent l'eau du cœur leur monter aux yeux. « Gauvin, dit le roi, beau neveu, faites ce dont Lancelot vous prie, car jamais un prud'homme n'en offrit autant à un autre pour se racheter. » « Les prières n'ont ici que faire, répondit messire Gauvin. J'aimerais mieux d'avoir le cœur arraché de la poitrine que de renoncer à ma bataille. Soit ma mort, soit ma vie. J'ai si grande douleur du trépas de Gaherrier qu'il m'est plus doux de mourir que de vivre sans l'avoir vengé. » Et il tendit son gage. Mais le comte laisse maintenant ce propos, pour deviser de mordrer.